France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Créatrice du premier centre international de documentation sur la prostitution, meneuse en 1975 à Paris de la révolte des prostituées, Griselidis Réal s'était mise à l'écriture et à la peinture au cours d'un séjour en prison. Le 22 mars 1992, Irène Omelianenko lui consacrait « Clair de nuit ».
Alors écoutez bien, l'amour gratuit, il faudra déjà qu'il soit payé de retour en amour. Mais comme la plupart du temps ce n'est pas le cas, vous n'allez quand même pas crever de faim en faisant l'amour gratuitement pour plaire à la morale. Je ne vois pas ce que ça pourrait rapporter, moi, tout à coup, d'être sous terre, hein, à l'état de squelette. Donc il faut bien vivre. Si vous choisissez de faire de l'amour et d'être payé pour votre travail, pour les services que vous rendez, pour l'activité que vous exercez, eh bien, à ce moment-là, je vois pas pourquoi on serait pas payé. Si vous faites l'amour gratuitement, c'est peut-être quand vous êtes amoureuse, mais c'est pas garanti que le partenaire va être amoureux aussi, hein. Là, vous pouvez fonctionner comme putain gratuite. Et moi, ça m'est arrivé combien de fois de tomber amoureuse et d'emmener un garçon chez moi quand j'étais plus jeune. Et tout à coup, il me disait, ah voilà, je suis très pressée, faut que je parte au boulot. Salut, au revoir, et je ne le revoyais plus. Donc, il m'avait utilisé pour son plaisir, il avait fait l'amour toute la nuit. Et ensuite, c'était terminé, voilà, la suivante. Alors, moi, je préfère encore être payée, procurer du plaisir aux hommes qui me le demandent. Je m'applique, je le fais le mieux possible. J'essaye de ne pas trop y laisser de plumes. Mais je ne me fais pas d'illusions. Hein. Ces hommes, ils vont pas tomber amoureux de moi, se jeter à mes genoux en disant « Chérie, je t'aime, viens, je vais t'épouser, on va vivre toute notre vie ensemble, on va partir en lune de miel. » Non, faut pas rêver. Parce que l'amour, c'est quand même quelque chose qui se construit, qui est rare, qui est précieux. Et c'est très rare que ça puisse se produire en 5 minutes, comme ça. Hein. Alors je pense que vous êtes finalement perdante de toujours céder à des illusions, à des désirs, du moment et vous retrouvez seul et floué et usé, hein. Et en plus sans fric, sans rien, en train d'avoir faim. Enfin, pour moi, il reste les artistes à aimer profondément parce qu'on a une véritable complicité avec eux. Mais à part ça, moi, l'humanité, je l'aime beaucoup, même quand elle pue des pieds, même quand ils sont ivres-morts et agressifs et un peu méchants. Je les aime quand même parce que c'est des êtres humains qui ont souffert et qui viennent un peu se décharger chez moi, recharger leurs accumulateurs et en quelque sorte se consoler quelquefois de beaucoup d'échecs ou de beaucoup de solitude. Ils viennent peut-être me mettre à l'épreuve aussi. Parce que pour un homme, je crois que c'est très dur d'engager une liaison amoureuse avec une femme en pensant qu'il va se retrouver éventuellement devant un échec. Avec une prostituée, vous n'avez pas ce risque. Elle est là, elle vous écoute, elle vous soigne, entre guillemets, elle s'occupe de vous, elle vous fait du bien ou du mal, c'est comme vous préférez, il y a du mal qui fait du bien aussi. Donc, elle est là pour vous, elle est attentive à vous. Une bonne prostituée, c'est ça. C'est une personne qui doit avoir une sorte de complicité avec l'homme qui vient la trouver, mais sans vouloir rien pour elle, sans vouloir posséder cet homme, sans vouloir le récupérer pour elle d'aucune espèce de façon. Elle est là vraiment pour lui rendre service, pour lui aider et même pour l'aimer d'une certaine façon, mais justement qui n'est pas égoïste. Et c'est pour ça, je crois, qu'on a besoin des prostituées. C'est qu'elles peuvent rendre de très grands services. Ce sont un peu les médiums de l'amour. Les hommes peuvent lui confier n'importe quoi sans perdre la face, sans prendre le risque, vous voyez, de se retrouver jugé ou condamné ou rejeté. Donc, je pense qu'elles sont utiles à cause de ça. C'est comme une sorte de miroir, on leur renvoie leur image à eux fidèlement, et si possible en les encourageant, en leur redonnant confiance en eux et en nous, dans l'humanité, dans les femmes surtout. Moi, j'ai eu beaucoup d'hommes très solitaires et même timides, complexés quelquefois, ou alors très déçus et qui me disaient « Mais on vient vers toi parce que on cherche un réconfort et au moins là, on ne sera pas déçu. Et ils n'ont pas toujours le courage d'entreprendre des liaisons amoureuses parce qu'ils ont déjà eu des déceptions derrière eux. Et il faut dire que tous les hommes ne sont pas non plus des Adonis ou des grands princes charmants. Vous comprenez, ils ont leurs faiblesses, comme d'ailleurs les femmes aussi. Et quelquefois, on les oblige à jouer un peu les hommes supérieurs, les machos, les vainqueurs, les chefs. Et ça, pour finir, ils ne tiennent pas le coup dans ces rôles, ils en ont marre aussi. Ils jouent le jeu, bon, quand il faut le jouer, mais devant nous, non seulement ils se mettent à nu le corps, mais l'âme aussi. Donc je crois que nous jouons un rôle capital. Et il faudrait que ça soit reconnu, qu'on reconnaisse que on n'est pas là pour rien et qu'on n'est pas méprisable du tout, au contraire. Je connais des prostituées qui sont vraiment admirables. J'en ai connu beaucoup, qui étaient même beaucoup mieux que moi. Parce que moi, je fais tellement de choses dans la vie en même temps que je n'ai pas le temps vraiment de me consacrer à une seule chose correctement. Donc, je reconnais mes lacunes.
Oui, vous êtes partagée entre les hommes et la photocopieuse, finalement.
Oui, c'est ça, et les congrès, les meetings, les luttes internationales. Bon, qu'est-ce que vous voulez, l'écriture et tout ça. Mais je ne me plains pas parce que c'est moi qui ai choisi. Donc il faut s'assumer soi-même pour le meilleur.
Stuttgart, jeudi 24 septembre 1987, tea room de l'aéroport. Très cher Jean-Luc, cette fois-ci c'est la grande vie. Je bois un punch du planteur à votre santé. Avec une paille, bien sûr, et une petite girafe en plastique qui trempe dedans pour remuer les glaçons. C'est délicieux, je vous le recommande. Je l'ai bien mérité. Après cette dure épreuve, j'ai occasionné, sans le vouloir d'ailleurs, deux scandales monumentaux au sein de ce congrès. Mon nom a été cité à plusieurs reprises et même assorti d'un blâme public de la part du président d'honneur. Un des membres du comité a même donné sa démission à cause de moi et a quitté la salle tout un après-midi parce qu'on m'avait redonné la parole, 1 minute et demie. Tout ça me fait bien de l'honneur. Et pour avoir commis quel crime ? Simplement d'abord d'être là, toute noire et gluante de péché, et d'oser le revendiquer sans vouloir m'amender. Ce qui est évidemment incompatible avec les idées abolitionnistes qui prônent depuis plus de 100 ans l'abolition de l'esclavage dans lequel nous, les putes, sommes censés être enfermés. C'est grotesque, c'est rétro, cela manque absolument de nuance et d'objectivité. Sous prétexte de nous rendre notre dignité humaine, on nous traîne dans la boue si nous refusons le salut. Une petite moitié de la salle était progressiste et me soutenait, quoique avec des réserves. L'autre moitié, grosse de respectables personnages à la morale de fer, résolument hostile, quasiment hystérique par moments. Accroché au micro, j'ai laissé passer l'orage, les menaces, les insultes, stoïque, muette. Et on me l'a laissé. Certains n'en revenaient pas. D'autres m'ont félicité pour mon courage. Ensuite, j'ai été réhabilité publiquement par une dame juriste suisse et en tout dernier lieu, par la présidente indienne, vêtue d'un magnifique sari. Je suis allé lui serrer la main et la remercier avant de partir. Elle m'a adjuré, les yeux dans les yeux, de quitter la prostitution. J'ai refusé. Quelle ingratitude tout de même. J'ai le péché chevillé au corps, à l'âme et au cul. Que voulez-vous, c'est trop tard. Et puis ma dignité personnelle m'interdit de m'écraser devant ces gens, leur morale et leur jugement. J'ai vomi ce système, je ne le réingurgiterai pas. Je resterai donc indigne, esclave, menaçante, pour eux, selon le titre de leur congrès. Et c'est le dernier, le troisième, dans lequel j'irai m'embourber en dépensant 1 000 francs suisses. Mais je ne regrette pas. J'ai beaucoup appris et la collègue que j'avais amenée, une superbe pute, belle, intelligente, spécialisée dans les sadomasochistes, la fameuse Micha von S, qui est en train de se recycler en journaliste, a très bien parlé elle aussi. Elle était scandalisée. Une amie, travailleuse sociale de l'association Aspasie à Genève, entraînée dans la même galère, a plongé avec nous, frappée par la même haine et le même mépris. Elle a compris enfin, dit-elle, ce que nous vivons. Mon cher Jean-Luc, il n'y a plus de limite. Tant qu'à se vautrer dans le péché, je me suis commandé une énorme coupe en faux cristal remplie de myrtilles géantes et de crème fouettée. Faut voir ça. Et je l'attaque en pensant à vous. Je me fous de tout maintenant, on ne m'a pas attrapé. Et dire que j'ai bu un jus d'orange pendant une des pauses du congrès à 50 cm du chef de la police de Stuttgart. J'ai tout de même eu ce matin un grand frisson d'épouvante avant de sortir de l'hôtel. Tout en payant ma note, j'entends la patronne s'exclamer « Ah bon, vas-y, s'den los !» Que se passe-t-il donc ? Je regarde par la fenêtre. Une petite voiture verte, repeinte de frais, la grune Minna, avec gyrophare et deux casquettes flambant neuves, et deux flics dessous. Oh là là ! Je suis sorti en flageolant. Ils m'ont bien regardé, et ils ont démarré. D'anciennes angoisses oubliées me sont remontées à la surface. J'étais verte, moi aussi. Enfin voilà, plus que la douane à passer, et je repars à tire-d'aile d'avion pour le plancher des vaches helvétiques. Je vous raconterai ça dans une autre lettre, vu qu'il va falloir que je lève l'ancre dans 10 minutes. Chaudes amitiés et pensées. À bientôt, votre vieille tzigane.
Comme j'ai participé à la révolte des prostituées françaises en 1975 et que je ne les ai jamais quittées, je me sens vraiment solidaire, je suis leur complice. Hein. Mais en Suisse, elles sont privilégiées parce que les lois sont différentes, c'est tout simple. Il ne faut pas chercher plus loin. Et particulièrement à Genève, nous avons lutté pour ça, ça c'est sûr, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais une femme prostituée maintenant est devenue presque une citoyenne à part entière à Genève. À condition qu'elle ne dérange pas, qu'elle ne fasse pas de scandale, qu'on ne puisse rien lui reprocher vraiment. C'est une femme un peu à part, un peu marginale, mais en attendant, les gens l'acceptent beaucoup mieux et elle est beaucoup moins persécutée qu'en France où les lois sont vraiment moyenâgeuses, c'est arriéré, c'est inhumain, on les traite vraiment comme de la merde, on leur prend du fric par tous les moyens, par les PV, par des impôts abusifs, on les empêche de vivre en famille, on leur interdit d'avoir un compagnon ou une compagne de leur choix, elles peuvent même pas vivre officiellement avec un enfant majeur ou avec quelqu'un de leur famille, elles peuvent pas s'associer à plusieurs pour travailler. Enfin, il y a de telles contraintes que c'est inhumain d'être prostituée en France, ou alors tout est clandestin, donc on peut vous exploiter bien davantage.
Il y a peut-être plus, on a l'impression, enfin en tout cas dans votre livre, qu'il y aurait peu ou pas de macro en Suisse pratiquement. Enfin, il est possible de travailler en autonome, quoi.
Moi, ce mot macro, il me fait mourir de rire. D'abord, ça n'existe pas, un macro. Ce sont des hommes, des êtres humains comme les autres. Et vous en Suisse, hein, vous avez le droit en Suisse de vivre avec qui vous voulez, pourvu que vous n'alliez pas vous plaindre de vous laisser exploiter ou violenter d'aucune façon. Mais en France, vous n'avez pas le droit de vivre avec quelqu'un. Or, une femme ou une personne qui est vouée à la solitude par des lois arbitraires, elle peut plus supporter cette solitude totale, c'est inhumain. Donc, elle va rencontrer un être peut-être qui aura aussi des problèmes et qui sera tout content qu'elle l'aide. Et elle se sentira moins seule et elle pourra évidemment se faire exploiter, ça arrive. Mais il y a aussi des couples qui sont tout à fait dans la norme, où vous voyez soit un homme qui exploite une femme ou le contraire. Hein. Mais dans la prostitution, c'est plus grave parce que justement en France, c'est presque obligatoire ou de vivre seul ou alors de tomber sur quelqu'un qui pourra peut-être tirer profit de vous parce qu'il sent que vous avez besoin d'être moins seul. Alors il en profitera. Donc c'est les lois qui font les macros. Vous comprenez? Et c'est trop facile de dire nous luttons contre le proxénétisme. D'abord, c'est quoi le proxénétisme? Vous n'avez même pas le droit de louer un local à une prostituée pour qu'elle fasse ses clients dedans. Tout est clandestin. Il y a des abus extraordinaires. Moi, je connais tout ça par cœur. Alors déjà, le taulier, il sera taxé de proxénète. L'ami de la prostituée, même s'il l'accompagne sur son lieu de travail en voiture, même si c'est lui qui a payé la voiture, admettons, il sera encore taxé de proxénète, il ne pourra pas cohabiter avec elle, il ne pourra pas l'inviter au restaurant. Enfin, tout est impraticable, interdit, inhumain, vous devez gagner du fric et que ça rapporte à l'État. En PV, quotidiennement, on peut leur donner des PV qui vont jusqu'à 1500 ou 1600 francs suivant les quartiers, moi je le sais. Et d'autre part, on vous demande des impôts. D'autre part, on vous interdit de travailler dans de bonnes conditions. Et d'autre part, il y a des prostituées qui veulent continuer à gagner leur vie de cette façon. Elles ont leurs clients attitrés. Elles pratiquent cette activité de façon honnête et humaine. Et je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et il faut que ça change. Quant aux prostituées qui sont là... parce qu'elles ont été mises de force sur les trottoirs. Nous, on a toujours été d'accord de leur aider à en sortir. Il y a d'ailleurs des organismes qui s'en occupent, qui reçoivent même des subsides pour ça. Ça, c'est autre chose. Il y a la prostitution vraiment qui n'est pas volontaire, et il y a la prostitution qui devrait être totalement libre. Chacun a le choix de faire le travail qui lui convient ou qui l'arrange sur le moment ou pour une durée plus ou moins longue. C'est un métier, comme un autre, d'après moi. Et d'ailleurs, vous l'apprenez. Après des années de pratique, vous devenez une technicienne véritable de la sexualité. Et ça, ça ne s'apprend pas en 5 minutes. Hein. Là, il faut du feeling, de l'expérience, de la psychologie, de la tactique. Il faut une écoute, il faut une imagination, une sensibilité qui, au jour le jour, s'amplifie, vous voyez, se nourrit de l'expérience quotidienne. C'est presque un art. Et ça, les gens ne veulent pas le reconnaître parce que pour eux, c'est immoral. De toute façon, certaines femmes peut-être préféreraient gagner leur vie autrement, mais elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas un métier, il y a du chômage partout, et quand on sait qu'elles ont fait le trottoir, on ne va pas les accepter n'importe où, dans n'importe quel travail. Donc il y a aussi des contraintes économiques et sociales. Mais il peut y avoir des contraintes psychologiques et même amoureuses. Une femme peut être amoureuse d'un homme qui lui fait des violences et qui lui promet toujours du bonheur pour plus tard. Elle s'accroche à une illusion et elle fonctionne quelquefois à la terreur et à l'angoisse et à l'illusion. C'est très complexe. Chaque cas est individuel. Moi, je crois qu'on ne peut pas généraliser. Mais dans n'importe quel métier, vous pouvez avoir des gens aussi qui fonctionnent à contre-cœur. Moi, j'ai travaillé dans des usines ou comme domestique, je vous garantis que c'était pas la joie. Hein. Mais à l'époque où j'étais enceinte, où j'étais tuberculeuse, où j'avais une vie extrêmement misérable, j'avais pas le choix, quoi. Et j'ai fonctionné 13 ans comme modèle aussi, dans les académies de peinture, même à Paris, partout, à Grande Chaumière. Et pour finir, ma santé me le permettait plus. Donc je peux pas dire que rester nue pendant 10 heures par jour dans les courants d'air, c'était le grand bonheur. Et j'étais très peu payée. Vous voyez, dans tous les métiers, vous avez le bon côté et le mauvais côté. Mais ce qui est, à mon avis, capital, c'est de pouvoir choisir, de rester dans telle ou telle activité par libre choix. Et ça, il faudrait vraiment que ça soit possible. Mais tant que les prostituées ne seront pas reconnues et respectées comme des valeurs humaines à part entière, ou bien on leur crachera dessus, ou bien on voudra les sauver à tout prix de l'esclavage et de la honte, et on risque souvent de manquer la cible, hein, parce que les vraies esclaves ne sont pas toujours celles que vous croyez, et les vraies femmes libres non plus. Il faudrait pouvoir dialoguer véritablement avec ces femmes. D'ailleurs, une association se crée à Paris en ce moment, qui va s'appeler Pompadour, et les prostituées vont essayer une fois de plus de se faire entendre par le gouvernement, par les instances dirigeantes, et tâcher enfin qu'on les reconnaisse comme des travailleuses libres, celles qui veulent le rester et l'être, et qu'on les respecte, et qu'on les laisse surtout exercer leur travail et vivre dans des conditions humaines, normales, décentes. Et pas toujours dans des conditions anormales et clandestines et terribles, destructives. Je ne sais ce qu'il signifie. Mon enfance, qui a commencé de façon tout à fait normale et privilégiée entre un père et une mère intellectuelle, et très cultivées qui nous ont fait connaître la musique, la lecture, le théâtre, enfin tout ce qui est beau, l'art. On nous promenait dans les musées à Florence, j'avais 6 ans, 7 ans, avec mes deux sœurs. Mon père, malheureusement, est mort quand j'avais 8 ans et demi. Donc là, on peut dire que déjà, un malheur a commencé qui était irréversible. Une petite fille privée de père, qui ne retrouve pas ensuite un substitut paternel, elle va rester sur un manque très profond. Elle va idéaliser les hommes, elle va croire toujours qu'elle va se trouver un papa merveilleux ou un amant extraordinaire. Donc, la plupart du temps, elle va fonctionner sur une illusion. Elle risque de se retrouver dans des pièges et souvent complètement à côté de la réalité et déçue et quelquefois dans des situations dramatiques. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'autre part, à l'époque, il n'y avait pas de moyens anticonceptionnels. Alors, à force de rechercher le grand amour, le prince charmant, l'homme de ma vie, je me suis retrouvée beaucoup de fois enceinte et sans faire exprès. Donc, il y a eu des avortements, des fausses couches, j'ai eu 4 enfants de 3 pères différents. Mon mariage n'a pas marché sur le plan sexuel, parce que là aussi, il y avait des manques. Donc, tout ça, ça forme une espèce de complexe, de nœud, qui fait que vous êtes au centre de ce nœud et que vous n'arrivez pas à dénouer les situations. Vous restez comme prisonnière. Alors, vous finissez par échapper, peut-être dans quelque chose qui n'est pas la norme. Et vous finissez par vous révolter, vous finissez par prendre beaucoup de risques. Vous voulez être heureuse à tout prix, mais comme vous voyez que ça ne marche pas comme pour tout le monde, dans la normale, alors vous essayez d'être heureuse autrement, dans la révolte, dans le défi. Et moi, c'est probablement ce que j'ai fait. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais 3 enfants à nourrir sur 4, toute seule, et il fallait bien me débrouiller, une santé très fragile, et pour finir, je me suis retrouvée dans la prostitution par une sorte de fatalité. C'était marche ou crève. Et au début, pour moi, c'était l'horreur. Je me disais, je suis perdue à tout jamais, c'est la honte de la famille, je peux plus regarder les gens dans les yeux, je rasais les murs, je n'osais presque plus exister.
Ça vient de la société qui donne une certaine image, morale.
Ça venait de mon éducation, parce qu'on nous avait enseigné qu'à aucun prix, il fallait être une prostituée ou une putain. N'est-ce pas? Il fallait gagner sa vie honnêtement, si possible dans le domaine intellectuel, mais en tout cas pas sur les trottoirs. Donc moi, le jour où j'ai commencé à comprendre que dans cette prostitution, il y avait un côté humain extraordinaire, tout à fait inconnu, qui avait été soigneusement occulté de toute évidence, ça a commencé à m'intéresser, à me passionner, à m'inquiéter aussi. Je me suis dit, mais comment cela se fait que la prostitution existe? Pourquoi tous ces hommes viennent-ils toujours trouver des femmes la nuit dans les rues, partout? Pourquoi ont-ils tellement besoin de nous? Et nous, qu'est-ce qu'on fait là pour finir? Et pourquoi est-ce qu'on nous déteste? Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher? Pourquoi est-ce qu'on a peur de la police? Enfin, toutes ces questions ont commencé à se poser, vous voyez, et j'ai vu que j'étais pas seule. J'ai vu que nous étions des centaines, des milliers de femmes dans le monde entier et que toutes en étaient victimes des mêmes injustices et des mêmes répressions et de la même incompréhension de la part des gens. Il fallait déjà se comprendre, à se connaître soi-même pour arriver à s'exprimer. Et c'est, je crois, ce que nous avons fait. Et ça continue, ça va pas s'arrêter.
Genève, samedi 11 février 1989. À table le soir, 20 heures passées. Je vous préviens. Ce soir, j'attaque une bouteille vierge de Royal Kadir. Vin fin d'Algérie, Oran, Ostaganem. Il faut cela le soir, après une journée entière au thé et à l'eau. Je vous signale également que le litre, car il n'est vendu qu'en litre, de ce vin miraculeux a augmenté de 20 centimes suisses. Une honte. On assassine le peuple et les vieilles putes sur leur tour. Bientôt, nous ne pourrons plus boire. Va falloir se farcir des ivrognes supplémentaires à des prix dérisoires pour engraisser des marchands de vin malhonnêtes. Ben voilà, la Suisse n'abrite pas que des escrocs politiques. Passons. Je suis hors de moi de toute façon. C'est C'est étrange. Au moment où je découvre enfin dans le fameux quotidien roman 24 heures, votre superbe interview qui tient toute une page avec vos deux photos. Cela fait deux nuits exactement que j'ai recommencé à lire de longs extraits de votre dernier livre, votre premier roman. Oui, votre fameux Cap Fréhel, publié chez Albin Michel, était anti-femme au possible. Quoi ? Essayerez-vous faiblement de me dire, moi, anti-femme, mais je ne cherche qu'à leur faire plaisir. Oui, à quel prix, hein ? Et auquel ? Et quelle description donnez-vous-là de ces malheureuses ? On ne peut pas, non, se foutre davantage de la gueule et du cul des femmes que vous ne le faites dans votre soi-disant maison de plaisir pour femmes. Heureusement fictive, manquerait plus que ça qu'elle existe. Vous vous trompez complètement sur la psychologie et la physiologie des femmes. Vous errez, vous divaguez, vous criminalisez, vous trahissez, vous délirez, vous théorisez, vous monopolisez, vous médiatisez, littérarisez à tort et à travers la libido des femmes, vieilles ou jeunes. Vous n'avez rien compris et ne comprendrez jamais. De grâce, on vous pardonnerait peut-être, cessez d'écrire sur nous, ou plutôt continuez. Vous n'avez rien compris, cher Jean-Luc, rien. La femme est autre. Votre livre est d'ailleurs en quelque sorte une pure, donc malheureusement honnête en ce qui concerne votre ignorance fondamentale, imposture philosophique. Comment ? Croyez-vous que la femme, vieille ou jeune, je précise, n'a que l'orgasme dans la tête et dans le vagin, hélas, et fournie par vos gigolos de pacotille, dont la moitié du salaire, de leur laborieux effort, tombe dans la poche d'une maquerelle alcoolique et de son maquereau impuissant ? Alors, encore une fois, je le répète, vous n'avez rien compris. D'ailleurs, que connaissez-vous aux vibrations de ces dames, hein ? Combien en avez-vous ? Oui, vous, approchez, caressez, baisez et propulsez au paradis de leur corps et de leur âme, hein ? Combien ? Pas une, sans doute. Zéro, rien. Et vous n'y tenez pas. Tout cela n'est que pur fantasme littéraire. Je vous ai prévenu, je suis ce soir dans une colère apocalyptique. Mais quelle image donnez-vous de nous ? Dans votre livre écrit avec un talent, je dirais même un génie, fou et fatal, criminel.
Pour moi, l'argent n'a pas de véritable valeur en lui-même. Bon, si vous n'avez évidemment pas d'argent, comme il m'est arrivé à des époques de ma vie, vous crevez de faim, vous n'avez plus rien. Donc, ou il faut travailler si vous trouvez du boulot, ou alors il faut voler, ou il faut se prostituer, mais enfin, il faut survivre. Alors, pour moi, c'est un moyen de survivre, mais c'est aussi un moyen de lutte. Parce que dans la prostitution, où malgré ce que les gens croient, on a plus de liberté que dans d'autres domaine, parce que vous pouvez travailler aux heures qui vous arrangent, et si vous n'avez pas envie de travailler un jour, eh bien vous restez chez vous, ou bien vous allez vous promener. Vous voyez, vous avez beaucoup de liberté. Vous n'avez pas des horaires fixes, avec des salaires fixes, avec un patron qui vous donne des ordres, avec un règlement qu'il faut respecter. Vous êtes votre propre patronne. Voilà, à condition que vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre peau, que vous soyez libre. À ce moment-là, personne ne peut vous contraindre à rien. Bon, il y a les contraintes qui sont là pour tout le monde, payer des impôts, son loyer, soigner sa santé, élever ses gosses, bon d'accord, mais à part ça, vous êtes libre de vous-même. Et cette liberté, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et je pense que l'argent que je gagne, moi, c'est pour ma liberté et celle des autres. Je ne veux pas, moi, être privilégiée dans un monde qui crève. Donc, nous sommes tous solidaires et c'est déjà criminel d'être complice d'injustice sans se révolter et sans agir. Il faut de l'action. Et moi, je me suis engagée dans cette action parce que je pense que c'est la seule chose à faire, vu que la planète est quand même en grand danger. Actuellement, tout le monde le dit, hein. Il y a le commandant Cousteau, il y a Haroun Taziev, il y a toutes sortes de gens qui se penchent sur la nature, sur la pollution, sur les dangers nucléaires. Enfin, si vous vous tenez un tout petit peu au courant des risques, des dangers qui menacent toute la planète, l'atmosphère, l'oxygène, l'eau, les forêts, la terre, vous devez vous lever et agir. Vous ne pouvez pas rester là comme une autruche, la tête dans le sable, en disant « tant pis, je m'en fous, ça ne me concerne pas, mes enfants crèveront, mes petits-enfants crèveront, j'en peux rien, ce n'est pas de ma faute ». Non, vous êtes responsable. On doit agir. Et les prostituées sont une force énorme. Et si un jour on voulait les reconnaître, les respecter et les aimer, elles pourraient aider beaucoup, beaucoup plus qu'on croit pour la paix, pour la santé, pour le bonheur de l'humanité. Simplement, il faudrait leur accorder le statut d'être humain. La vie moderne, elle est devenue souvent tellement artificielle, tellement angoissante, et il y a tellement de chômage aussi. Moi, je vois des hommes qui arrivent chez moi, peut-être qu'ils ont perdu leur femme, ou ils viennent de divorcer, ou alors ils se retrouvent un peu malades et sans travail, et on les bourre de tranquillisants et de toutes sortes de produits chimiques, de sorte qu'ils n'arrivent même plus à faire l'amour, et ils sont déjà malades de toute cette angoisse et de toute cette intoxication chimique. Et c'est vrai que c'est très difficile de rester en bonne santé dans la vie moderne, dans le monde moderne. Déjà, le bruit, ça vous rend malade. Et les gaz que vous respirez partout, le manque d'oxygène, le manque de nature, on assassine la nature, on fait que du béton partout, du plastique, la ferraille. Mais c'est terrible, n'est-ce pas? Il faut revenir absolument à respecter plus la nature et à arrêter de la démolir et de la détruire.
Oui, il y a aussi un autre point qui semblait important pour vous. Enfin, vous y faites allusion une ou deux fois, c'est l'éducation des enfants. Vous dites, moi j'ai fait scandale quand j'ai raconté que je donnais de l'argent à mes enfants quand ils me rapportaient des zéros. Alors c'est peut-être un peu poussé, je ne sais pas, mais...
Non, c'est la vérité.
Alors racontez-nous un peu comment...
Bon, je ne dis pas que j'ai eu raison, mais vous comprenez, dans les écoles aussi, on apprend des choses tellement imbéciles. C'est vrai, on conditionne les petits garçons, par exemple, pour devenir des guerriers, des militaires... Il faut à tout prix porter un fusil, savoir s'en servir. Mais tout ça, ça apprend à tuer. Et les petites filles aussi, on leur apprend des choses inhumaines. Donc moi, je n'encourageais pas particulièrement mes enfants à être brillants dans le système scolaire. Mais c'était un peu par défi que je leur disais, si vous me ramenez à zéro, je vous donne un franc. Et alors souvent, ils rentraient chez moi et me disaient, maman, on n'y arrive pas, la maîtresse, pour nous consoler, elle nous donne un. Mais de toute façon, mes enfants sont... extraordinaires, ce sont tous des artistes, ils ne sont ni drogués, ni voleurs, ni prostitués, ils travaillent, ils gagnent leur vie, ils ont leur vie amoureuse, ma fille vient d'avoir un magnifique petit enfant à l'âge de 36 ans, elle est très heureuse en amour, mais tout ça, ça a demandé un dialogue constant, une confiance, un amour, il fallait être complice, il fallait vraiment exister avec eux, moi je dis que mes enfants m'ont éduqué, moi. C'est pas moi qui les ai éduqués, ils m'ont tout appris et je leur suis infiniment reconnaissante. Et encore maintenant, on a entre nous une confiance, une amitié, un amour, on peut se dire merde, on peut s'engueuler, on peut s'embrasser, on fait la fête. C'est extraordinaire, c'est comme ça que ça devrait être dans les familles. Vous voyez, souvent malheureusement, entre les parents et les gosses, il y a des espèces de rapports, de faux rapports de pouvoir. Les parents ont raté quelque chose, il faut que le gosse réussisse à leur place à tout prix pour les valoriser, pour les réhabiliter en quelque sorte, alors que l'enfant, il a peut-être envie de faire tout autre chose. Et quand il commence à connaître par ses copains toutes sortes de choses curieuses, voler, se droguer, tout ça, eh bien, il faut parler avec eux. Il faut dialoguer aussi avec les copains, il faut lire des livres ensemble. Quand ils vous posent des questions sur la sexualité, il faut répondre la vérité. Les enfants, il ne faut pas les prendre pour des cons et des imbéciles. Et dès qu'un enfant s'aperçoit que vous lui mentez ou que vous lui cachez des choses, il perd confiance en vous et il perd confiance en lui. Il se dit, voilà, ma mère ou mon père ne me disent pas la vérité, ça veut dire que je ne suis pas digne d'écouter une vérité. Et tout de suite, ils se sentent ou coupable ou moins aimé. En tout cas, ça crée des sortes de failles, ça crée finalement des abîmes. Et l'enfant, quand il voit qu'on projette sur lui sans arrêt une image idéale à laquelle il doit se conformer à tout prix et qu'il n'y arrive pas, et que cette image d'ailleurs n'est pas si idéale que ça, il finira par fuir, il finira par se révolter. Il y en a qui finissent par s'autodétruire, par désespoir et aussi par défi, en disant « mais enfin, foutez-moi la paix, laissez-moi être moi-même, ne me forcez pas à être quelqu'un d'autre. » Et surtout, c'est le dialogue qui est important. Il faut toujours écouter les enfants, il faut jouer avec eux, il faut leur parler, il faut leur répondre. Et il faut vraiment les respecter en tant qu'être humain. C'est pas parce qu'un enfant est un enfant qui vous est inférieur et qui serait débile ou mal formé. C'est pas vrai. Simplement, il se développe à son rythme, qu'il faut respecter et même admirer. Moi, je trouve que c'est magnifique, les enfants. Ils ont en eux une fraîcheur, une confiance, une pureté. C'est merveilleux. Ils ne calculent pas comme nous. Ils ne veulent pas paraître à tout prix. Ils ne mentent même pas. Quelquefois, c'est leur imagination, simplement, qui crée quelque chose. Donc, si on ne comprend pas les enfants, c'est pas la peine d'en avoir. Hein.
Oh, traître, Judas, Hitler que vous êtes! Vous nous tuez, vous nous réduisez, vous nous anéantissez, c'est une horreur! Ne saviez-vous donc pas, monsieur Jean-Luc Hennig, que la femme, que les femmes, ont un cœur, un esprit, une âme, même plusieurs? Oh, je suis dans une colère. Vous seriez devant moi ce soir, je vous boxerai, vous étriperai à mort, vous crèverez. L'amour, hein? L'amour. Oui, monsieur le littérateur, l'amour meurt, se meurt, est mort, né de toute éternité dans vos textes et dans tellement d'autres. Ne croyez-vous donc plus? N'avez-vous donc jamais cru en rien? Ne savez-vous donc pas que l'amour, c'est l'orgasme des saints, des poètes, des fous? Crevez-vous dans vos doutes, dans vos échecs fictifs obscurs, bassement calculés, assassinés? Oh, je suis dur ce soir. J'en ai rien à foutre, car les putains sont pures. Oui, elles sont folles, intègres, trahies, innocentes, et perdues tous les jours, la nuit surtout. Nous, la littérature, on chie dessus. Nous sommes payés pour ça. Mais l'amour... Oh mon Dieu, l'amour... Quelle illusion nous soulève de ces ailes artificielles et pourtant dures. Ça, vous n'en avez aucune idée. Donc vous, monsieur Hennig, attendez-vous au pire. Qu'avez-vous fait de nous? Que décrivez-vous donc dans votre horreur de livre génial, abominable? Hein? Sommes-nous là comme des papillons à l'agonie épinglés sur une planche? Non mais croyez-vous que nous allons payer les couilles de vos gigolos pour nous envoyer au ciel de l'indifférence? Jamais! Votre bordel pour femme peut fermer ses portes avant même de les avoir ouvertes. Nos orgasmes, nous nous les procurerons nous-mêmes, gratuitement, s'il le faut. On nous paye pour ça. Les hommes sont beaucoup trop affamés de nos corps. Ce sont eux qui payent, qui paieront de toute éternité. Pauvres cons! Jamais nous ne paierons pour du plaisir que nous pouvons avoir sans vous.
Vous évoquez un passage assez terrible avec un homme dont on imagine qu'il a eu justement une enfance difficile et qui est resté fixé sur les petites filles, en fait, avec un interdit sexuel sur les petites filles. Et vous expliquez comment vous essayez à la fois de lui permettre de vivre son fantasme, mais en même temps, on sent que vous, avec beaucoup de sensibilité, vous essayez aussi de ne pas le faire déraper. Qui ne tombe pas dans un gouffre qui est tout près de lui en même temps.
En réalité, c'est lui qui refuse de déraper. Mmh. Et moi, je l'aide à se sentir mieux dans sa peau et je le fais déraper dans un autre sens, c'est-à-dire que c'est comme au théâtre, je joue un certain personnage en y mettant tout mon cœur, toute ma sensibilité et en sachant très bien que c'est un personnage plus ou moins fictif, mais dont il a besoin sur le moment pour échapper justement à une sorte de fatalité qui voudrait le faire déraper de façon alors criminelle. Hein. Donc je pense qu'on peut aider beaucoup certains hommes. Vous voyez, sans les juger, sans les empêcher de réaliser leurs fantasmes, mais en les aidant à les réaliser de façon, disons, pacifique, hein, même positive, dans un certain sens. D'abord, moi, je ne sépare pas obligatoirement la sexualité de l'art ou de la musique ou de tout. Hein.
Bien sûr.
La sexualité, elle est un peu partout, même dans les plantes, dans les fleurs, dans les oiseaux, dans tout ce que vous voulez. Mais certainement, nous avons de longues conversations culturelles, si vous voulez. Et d'autre part, pour revenir à cette fameuse confession, je pense que ce qui n'est pas très honnête dans le fait que cette confession s'exerce comme une sorte de censure, voyez-vous, sur les personnes. On doit avouer ses péchés, ensuite on est pardonné à condition de ne plus pécher. Bon, on recommence, on avoue de nouveau, on est pardonné de nouveau, mais enfin on se sent tout le temps coupable, on se sent en infraction perpétuelle ou possible. Or, la prostituée, quand elle écoute des confessions, entre guillemets, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle aide l'être humain à fonctionner avec ses déviations intérieures ou extérieures, à mieux se comprendre, peut-être à les dépasser un jour d'une façon ou d'une autre, ou pas. On n'est pas là pour juger, pour absoudre, on est là pour écouter et pour aider à faire mieux fonctionner l'être humain dans sa propre peau, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans cet être.
Alors, n'avez-vous pas peur, dans votre militantisme, n'avez-vous pas peur de recréer un nouveau mythe de la prostituée? Parce que n'y a-t-il pas non plus quand même aussi des femmes qui souffrent d'être là? Tout simplement, je veux dire, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger?
Vous savez, le danger, ça dépend comment vous prenez les choses, n'est-ce pas? Moi, je trouve que chaque prostituée est un être humain absolument unique et différent. Vous pouvez pas généraliser. Chaque être humain, en fait, est unique et différent d'un autre. C'est pas parce qu'on est prostituée qu'on doit toutes se ressembler, fonctionner sur le même modèle. Dans les prostituées, vous avez de tout. Vous avez des femmes, bien sûr, très malheureuses, angoissées. Vous avez des femmes aussi très solides, qui savent où elles vont, qui prennent leur destin en main, qui réussissent, entre guillemets, leur vie. Pourquoi pas? Il y a de tout. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces femmes, prostituées ou non, d'ailleurs, arrivent à s'épanouir, à être heureuses, à se sentir vivre vraiment d'une façon solaire, d'une façon lumineuse, et pas toujours cachées dans l'ombre, en ayant peur des autres. Moi, je trouve qu'on devrait simplement arrêter de fonctionner selon des préjugés et des tabous. Il faut reconnaître qu'une prostituée ou un prostitué est un être humain. Il faut dialoguer avec cet être, il faut l'écouter, il faut savoir s'il est heureux et pourquoi il ne l'est pas. Et il ne faut pas jeter cette espèce d'écriteau de prostituée comme une marque infamante, comme on imprimait une fleur de lys sur l'épaule des condamnés au Moyen-Âge. Il faudrait absolument arrêter ce jugement morale, a priori. Il faut voir l'être humain d'abord, l'écouter, et le préjugé, il tombe de lui-même. Il n'a plus de raison d'exister. Il peut y avoir de l'humour, de la tendresse, de l'humanité, du désir, mais désir non sexuel, voilà. Elles ont envie d'être heureuses, la plupart ont des enfants, elles ont envie d'avoir une vie normale, comme tout le monde, ou peut-être mieux que tout le monde. C'est ça qu'il faut voir en elles aussi. La sexualité, vous voyez, telle qu'elle est pratiquée dans la prostitution, moi, à mon avis, c'est un domaine à part. Mais ça n'aliène pas la femme qui pratique cette activité, pas plus que ça n'aliène l'homme qui vient en client. C'est un échange qui se pratique à un moment donné d'une certaine façon, d'ailleurs toujours très diverse, hein, très personnelle, et je ne vois pas pourquoi on devrait classer les êtres humains selon des catégories tellement limitées uniquement à leur fonction ou à un moment de leur vie ou à un moment de la journée.
Vous évoquez aussi parfois la peur.
N'est-ce pas? Vous avez des quantités de métiers à risque. Sauter en parachute ou être scaphandrier dans la mer, faire des courses de motocyclette ou de offshore. Enfin, il y a des quantités de métiers où vous risquez votre vie ou être dompteur dans un cirque ou même boxeur où on a vu des gens mourir, hein, pour moins que ça. Donc, où le risque vous plaît, vous l'assumez, vous le prenez en compte. Et même, vous vous colletez avec ce risque. Vous savez que c'est à vous de jouer, il ne faut pas vous laisser avoir. Ou alors ça ne vous plaît pas, ça vous angoisse à tel point que vous ne pouvez pas faire face, alors il faut faire autre chose. J'ai toujours peur, à un moment ou à un autre, mais pas continuellement. Mais là aussi, vous pouvez vous faire écraser dans les 5 minutes sur la rue par une voiture. Hein. Le risque, il existe partout. Il faut en être conscient, justement, pour ne pas être piégé, pour avoir la force, le moment venu, de ne pas se laisser... pas se laisser vaincre par ce risque, hein, pas se laisser piéger. Vous devez être plus forte. Pour ça, ce n'est pas éliminer la peur qui vous rend forte. C'est la surmonter, c'est faire avec.
Oui, encore une page ajoutée à cette lettre plus que comble. Je viens de faire, après 2 jours sans un seul client, le seul 3 tonnes. Revenu de ses vacances d'Espagne. Mon Dieu, que je respecte et que j'aime ces hommes tellement honnêtes, humbles et dignes et pauvres, qui me font confiance et reviennent vers moi en 11 ans et demi. Voilà la seule prostitution. Tout le reste n'est que du bidon. Je suis dure, hein, très dure. C'est ainsi. Je crois que vous avez un terrible compte à régler avec les femmes, et vous le réglez magistralement dans ce livre, votre livre. Mais je ne suis pas dupe. Un jour peut-être, vous comprendrez. Vous vivrez ce à quoi vous ne croyez pas, n'avez jamais cru, l'amour d'une femme. Sachez qu'une femme peut vous aimer, vous adorer même, à condition d'être aimée de vous, que vous lui fassiez confiance. Le sexe est zéro sans l'amour. Homosexuel ou hétérosexuel, c'est une femme du métier qui vous le dit. Une putain. Votre amie. Oui, vous pouvez cracher sur les Suisses, la Suisse, vous avez raison. Mais c'est pourtant la plus belle interview que j'ai lue de vous. Alors, ô Jean-Luc, si je suis ému, bouleversé même, ce n'est pas seulement vous, votre talent, votre génie, votre ignominie littéraire et philosophique, érotique, ésotérique même. Non. Car vous n'avez jamais rien compris. Un peu plus tard. Je vais encore me faire un petit portugais revenu de vacances. Non. Vous ne comprendrez rien à la vraie prostitution et je ne vous en veux pas. Ainsi, moi, en ce moment, je suis brisée. D'ailleurs, je m'en fous. Je m'en fous. Oh, Jean-Luc. Y compris de vous. J'écoute de la très belle musique de Mozart. C'est comme si je n'existais pas. Plus rien, d'ailleurs, n'existe, n'a jamais existé. Ni les femmes, ni les hommes, ni l'amour. Tout est, comme l'a dit l'Ecclésiaste, ce grand philosophe, vanité, illusion, tromperie, néant.
Jean-Luc Hennig est un vieil ami, mais je l'ai connu en tant que journaliste, ça fait 12 ans. Il était venu à Genève faire une enquête sur les garçons prostitués. Et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait « Les garçons de passe » qui a eu beaucoup de succès. Je lui avais présenté 2 garçons prostitués à Genève qu'il a pu interviewer, dont un même chez moi, complètement pété mais génial, qui s'appelait Laurent, qui est mort malheureusement quelques années après d'overdose, je crois. Donc c'était des itinéraires un peu marginaux mais très intéressants. Et ces garçons se sont vraiment livrés à cœur ouvert. Jean-Luc Hennig avait été envoyé chez moi par une amie à moi qui était professeur à la Sorbonne, que j'avais connue à Paris lors des événements de 75, donc l'occupation des églises par les prostituées auxquelles j'ai participé.
Activement ?
Oui, que je n'ai jamais quitté. D'ailleurs, ça va faire 17 ans au mois de juin. Et Jean-Luc Hennig, ensuite, a voulu faire un livre d'interview avec moi qui s'est appelé « Griselidis courtisane » aux éditions Albin Michel, je crois, publié en 81, sauf erreur. Il est venu pendant 3 ans, tous les étés, avec un petit enregistreur, pour écouter et poser des questions sur ma vie de prostituée. Et par la suite, moi, je lui ai écrit un jour une lettre, comme on écrit à quelqu'un ou à un ami, sans réfléchir à autre chose. Et par la suite, il a voulu que je lui écrive des lettres. Il ne répondait jamais. Mais il me disait quelquefois au téléphone, « Écrivez-moi, ça fait quelque temps que je n'ai rien reçu de vous. J'attends une lettre. » Alors moi, à force d'écrire, on peut dire un peu dans le vide, mais en sachant très bien qu'il les lirait attentivement, j'avais envie de le provoquer, quelquefois de l'insulter, d'autres fois de lui plaire, de le charmer, de l'émouvoir. Une amitié extraordinaire s'est développée grâce, on peut pas dire à un échange épistolaire, mais simplement au fait que j'écrivais des lettres qu'il lisait sans y répondre. Et je lui racontais mon quotidien. Et pour finir, j'avais un plaisir extraordinaire à lui raconter toutes sortes de choses, même choquantes, même étranges, comme on n'oserait peut-être les raconter à personne, et en soignant toujours le style pour ne pas le laisser indifférent, pour lui plaire, et aussi pour l'inquiéter. Donc ça a duré pendant 12 ans. Et il y a quelques années de cela, je crois 3 ans à peu près, il m'a tout à coup dit qu'il voulait les publier, mais pas toutes, hein. Il y en a eu beaucoup plus que celles qui sont sorties dans le livre. Alors là, je me suis dit, premièrement, il n'y arrivera jamais, hein, parce que des lettres comme ça, personne ne voudra les publier. Elles sont trop à l'état brut, trop bizarres, trop choquantes peut-être, hein. Alors j'ai continué à lui écrire, et lui, pendant 3 ans, c'est vrai, il a cherché un éditeur, et chaque fois, on lui donnait des espoirs, ensuite, ça retombait à l'eau. On lui disait « oui, c'est formidable », puis tout à coup « ah non, non, on n'en veut pas, ça marche pas, le comité de rédaction et le rédacteur en chef n'en veulent pas ». Il a vraiment fait, je crois, toutes les maisons d'édition à Paris et en France. Et pour finir, il m'avait dit « j'essaye encore quelqu'un, mais c'est le dernier, si ça marche pas, je laisse tomber ». Alors moi, je me disais bêtement « bon, comme ça, j'aurai la paix, je pourrais continuer à lui écrire », parce que ça m'inquiétait un peu, cette histoire de les publier. Vu que je ne les écrivais pas pour ça, moi. Je savais que dans ces lettres, il y avait des choses, peut-être, que les gens n'aimeraient pas, ou qui étaient écrites d'une façon qui allait presque les blesser, ou les choquer un peu trop, et que je me mettais beaucoup trop à nu. Moi, je n'ai pris des gants, ni avec moi-même, ni avec Jean-Luc Hennig, ni avec personne dans ces lettres. C'était vraiment la vérité à l'état brut, c'était l'humanité écorchée vive, ou flamboyante ou quelquefois un peu écumante, enfin, c'est des choses qu'on n'écrira jamais pour les publier, semble-t-il. Alors, pour finir, il a trouvé les éditions Mania, et là, j'étais mise au pied du mur, j'ai dit, bon, si vous voulez les publier, vous les publiez, nous partagerons, bien entendu, ce que ça va rapporter éventuellement, et je trouve qu'il a été très courageux de les publier parce que lui aussi, il est mis sur la sellette, aussi bien que moi et d'autres. Ce sont des sortes de lettres vérités, comme si on était là, sur un échafaud et qu'on faisait son examen de conscience avant de passer à la guillotine. Hein. Ce sont des lettres qui n'ont pitié de personne et qui ne ménagent personne et qui ne dorent pas la pilule du tout. C'est peut-être ce qui fait leur force d'ailleurs, c'est que ça n'a pas été écrit ni calculé ni censuré d'aucune façon possible. C'est vraiment un langage à l'état brut.
Est-ce que vous l'avez trouvé, votre vieille baraque en France ?
Non, vous savez, j'ai presque tout dépensé dans la Révolution et dans une opération que j'ai eue l'année dernière. Alors moi, finalement, elle reste dans ma tête, quoi. Je peux dire que c'est le monde entier, ma maison. Ouf. Voilà. C'est Paris, c'est partout, c'est New York, c'est même l'être humain, c'est vous, c'est tout le monde.
France Culture, Clair de Nuit, vous écoutiez Griselidis Réal, le texte lu par Rose Thierry et La Passe Imaginaire de Griselidis Réal, édité par Mania, 31 rue Chaptal, 92 300 Levallois-Perret. Ce soir, William Duncan, Thierry Beauchamp, Simone Rongier, Jean Couturier, Irène Emelianenko. Bonne nuit.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 mars 1992.